Jacques aime le Seigneur et il désire faire sa volonté. Il fréquente Josiane depuis quelque temps déjà et les projets d'une vie à deux se précisent. Il reste cependant des doutes, des questions et Jacques décide de poser une toison devant le Seigneur. Ainsi, alors qu'il se promène, il prie et dit au Seigneur, « Seigneur, si la prochaine voiture qui arrive est rouge et tourne à droite, alors je saurai que c'est ta volonté que j'épouse Josiane. Si ce n'est pas le cas, je me plierai à ta volonté. » Cette histoire est imaginaire, mais ni impossible, ni caricaturale. Elle illustre la pratique de certains chrétiens dans leur recherche de la volonté de Dieu pour leur vie. Et cette pratique, quand elle existe, elle s'inspire du passage que nous allons considérer ce matin dans notre série sur Gédéon, dont c'est le cinquième volet que j'ai simplement intitulé « Les deux toisons ». Et je vous invite à lire, à suivre la lecture. Si vous n'avez pas votre Bible, nous allons lire dans le livre des Juges, au chapitre 6, et je commence la lecture au verset 33. Je lis dans la Nouvelle Bible Second. Juges, chapitre 6, versets 33 à 40. « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et dressèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu du souffle du Seigneur. Il sonna de la trompe pour appeler Abiézer à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé pour l'appeler aussi à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par moi, comme tu l'as dit, je place une toison de laine sur l'air, s'il y a de la rosée sur la toison seule, et que partout ailleurs le sol reste sec, je saurai que tu sauveras Israël par moi, comme tu l'as dit. » Il en fut ainsi. Le lendemain, il se leva de bon matin, pressa la toison et fit sortir la rosée de la toison, une pleine coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie. Je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais procéder encore à une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et qu'il y ait de la rosée sur le sol partout ailleurs. » Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et il y eut de la rosée sur le sol partout ailleurs. La dernière fois, nous avons vu comment Gédéon a obéi à Dieu, à l'ordre de Dieu, de détruire l'autel de Baal et le poteau d'Achéra qui appartenait à son père et de construire à la place un autel pour le Seigneur afin d'y offrir un sacrifice. Et c'est ainsi que Dieu commence à retrouver sa place au cœur de la vie du peuple, préalable indispensable pour que Madian puisse être vaincu. Madian qui justement revient en force pour la huitième année consécutive. Verset 33, « Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et dressèrent leur camp dans la vallée de Jizréel. » À l'évidence, l'heure du combat, l'heure de la confrontation approche. Mais Gédéon n'est pas encore tout à fait prêt. Dieu lui a dit d'aller avec la force qu'il avait, en s'appuyant sur le Seigneur, en comptant sur ses promesses. Mais maintenant, Dieu veut encore le revêtir de son esprit. Notons ici que le verbe qui est utilisé, revêtir, est le même verbe que l'on utilise pour revêtir un habit ou revêtir une armure. Gédéon fut revêtu du souffle de l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que Gédéon va sonner le ralliement, le rassemblement du peuple. Versets 34 et 35, il sonna de la trompe pour appeler Abiézer à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé pour l'appeler aussi à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Notons ici que les premiers à se rallier, c'est Abiézer, c'est-à-dire sa propre famille, son propre clan. Après le ralliement du père, souvenez-vous, qui avait pris la défense de son fils devant ceux qui voulaient le tuer pour ce qu'il avait fait aux idoles, c'est maintenant toute la famille qui se rallie derrière Gédéon. Décidément, l'obéissance de Gédéon porte du bon fruit. Après Abiézer, ce sont les tribus alentour qui répondent à l'appel des différents messagers qui sont envoyés, et donc nous avons les tribus de Manassé, d'Aser, de Zabulon et de Nephtali. C'est le haut de, c'est la Galilée, hein, c'est la partie haute de la Palestine, qui se rassemble pour combattre contre Madian. Cette fois-ci, tout est enfin prêt pour le combat et pour la victoire. Revêtu de l'Esprit de Dieu et entouré de 32 000 hommes, c'est le chiffre que nous découvrons dans le chapitre suivant, de tout ce rassemblement du peuple, 32 000 hommes, Gédéon va maintenant pouvoir faire face à l'envahisseur et remporter la victoire promise par Dieu. Eh bien non. Malgré tout cela, Gédéon n'est pas encore prêt. C'est ce que nous lisons dans les versets suivants et qui nous amène à ce deuxième point, les deux toisons. Que se passe-t-il ici? Que fait Gédéon? Il pose une toison de laine par terre en disant à Dieu que si la rosée, le lendemain matin, n'est venue que sur la toison et que tout le terrain autour est sec, verset 37, « Je saurai que tu sauveras Israël par moi, comme tu l'as dit. » Et que fait Dieu? Il en fut ainsi, verset 38. Dieu permet que les choses se passent conformément à la demande de Gédéon. Cette fois-ci, Gédéon doit certainement être pleinement rassuré. Eh bien non, toujours pas. C'est pourquoi il pose à nouveau par terre la toison de laine en demandant à Dieu cette fois-ci de faire l'inverse. C'est-à-dire de faire que le lendemain matin, la toison soit sèche et tout le terrain autour soit mouillé de la rosée. Et que fait Dieu? Verset 40, Dieu fit ainsi cette nuit-là. Dieu permet pour la deuxième fois que les choses se passent comme Gédéon l'avait demandé. Avant de réfléchir en détail à cette pratique qui consiste à poser une toison devant le Seigneur pour connaître sa volonté, essayons de comprendre ce qui a poussé Gédéon à agir de la sorte. Qu'est-ce qui l'a motivé? Que cherchait-il? Dans quel but a-t-il posé ces deux toisons? Et il existe ici essentiellement deux façons de comprendre les choses. Soit Gédéon a agi pour lui-même, pour se rassurer, soit il a agi pour rassurer le peuple qui est maintenant rassemblé. Si Gédéon a agi pour le peuple, ça résout pas mal de difficultés et ça écarte le doute, l'incrédulité des motivations de Gédéon. Gédéon aurait simplement fait ici œuvre de pédagogie pour le peuple qui n'a pas été au contact du messager du Seigneur, qui n'a pas entendu ce qu'il a dit, qui n'a pas vu le miracle qu'il a réalisé. Malheureusement, cette compréhension, aussi tentante soit-elle, n'a aucun étayage dans le texte. Et très peu de commentateurs l'envisagent. Notons à ce sujet qu'au verset 37, après avoir posé la première toison, Gédéon dit « Je saurai ». Il ne dit pas « Le peuple saura ». Il dit « Je saurai ». Je saurai que tu sauveras Israël. Ça rend difficile la compréhension que Gédéon a agi ici pour le peuple. Je vais donc laisser de côté cette piste pour m'attacher à celle qui fait la quasi-unanimité parmi les commentateurs et qui s'impose, à mon sens, à la lecture du texte. Gédéon a agi pour lui-même, sans doute, pour se rassurer. Et nous arrivons à notre troisième et dernier point, mais qui est quand même conséquent, que j'ai intitulé « La pratique de poser une toison ». Et ce point va être divisé en deux parties. Une première où nous allons considérer ce que Gédéon a fait, et puis une deuxième où nous allons regarder à nous-mêmes et à la pertinence ou pas d'agir comme Gédéon. La première chose que je voudrais souligner concernant ce que Gédéon a fait, c'est qu'il connaissait déjà la volonté de Dieu au moment où il a posé cette toison par terre, la première toison. Il connaissait déjà la volonté de Dieu parce que Dieu la lui avait clairement révélée. Nous l'avons vu dans les premiers volets de la série. Dieu lui a même confirmé sa parole par un miracle, pour authentifier que c'est bien lui qui parlait, lui qui l'envoyait pour sauver le peuple. D'ailleurs, nous constatons dans notre texte que, en réalité, Gédéon est tout à fait au clair avec cela. Verset 36, Gédéon dit « Si tu veux sauver Israël par moi, comme tu l'as dit ». Comme tu l'as dit, qui est d'ailleurs répété une deuxième fois dans le verset suivant. Gédéon connaît parfaitement la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas pour la connaître, pour la rechercher, que Gédéon pose ces deux toisons. Et à ce sujet, il est intéressant, surprenant surtout, de constater que quand elle existe, cette pratique de poser une toison est souvent pour rechercher ou confirmer la volonté de Dieu, ce qui n'est absolument pas le cas dans le texte. La deuxième chose que je voudrais souligner concernant la pratique de Gédéon, c'est sa mauvaise conscience qui semble l'habiter. Verset 39, Gédéon dit à Dieu, « Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie. » Je ne parlerai plus que cette fois, etc. Comment comprendre ces paroles de Gédéon? Personnellement, j'y vois le signe d'une certaine mauvaise conscience. Gédéon semble être conscient d'abuser de la patience de Dieu. Et pour peut-être comprendre ce sentiment de Gédéon et les paroles qu'il dit ici, il faut se souvenir de tout ce que Dieu a déjà dit et surtout de tout ce que Dieu a fait pour lui. Dieu qui lui a donc clairement révélé sa volonté à plusieurs reprises. Dieu qui lui a donné une révélation claire de sa personne au travers du messager du Seigneur et du miracle qu'il a accompli pour authentifier sa parole. Dieu qui l'a gardé de la colère meurtrière des villageois, qui en voulaient à sa vie après qu'il ait détruit l'autel de Baal et le poteau d'Achéra. Dieu qui a fait revenir son père et sa famille tout entière au Seigneur. Dieu qui a permis que le peuple, les tribus tout autour, répondent à son appel et se rassemblent pour le combat. Et puis, et ce n'est pas la moindre des choses, Dieu qui l'a revêtu de son esprit. Alors oui, Gédéon devait avoir un peu mauvaise conscience de poser quand même ces deux toisons après tout ce que Dieu avait déjà dit et fait pour lui. Parce que agir ainsi, d'une certaine manière, c'était remettre en question tout ce qui avait précédé. C'était douter, c'était manquer de foi. Pas surprenant donc que Dieu, que Gédéon dise « Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie. » Mais ce que j'aimerais remarquer ensuite, faire remarquer ensuite, malgré tout, ce que je viens de dire, c'est que Dieu ne lui a quand même fait aucun reproche. Aucun reproche, et même Dieu a accédé par deux fois aux demandes de Gédéon. Et cela, quelle qu'ait été sa motivation. Alors, comment faut-il comprendre cela ? Est-ce que c'est une indication que Gédéon a bien agi et que tout est bien ? Ou alors, est-ce que ça pourrait être une concession faite à la jeune foi de Gédéon ? Et vous me voyez venir, hein, je penche personnellement pour cette deuxième option. La foi de Gédéon est nouvelle, naissante, immature, balbutiante, pourrions-nous dire, comme elle l'est souvent au début. Et Dieu, d'une certaine manière, se met au niveau de cette foi naissante de son enfant. Et ce que nous avons ici, ça serait alors une manifestation de la grâce de Dieu et non pas le cautionnement de la pratique elle-même. Pour terminer avec Gédéon, avec la pratique de Gédéon, il faut encore que nous posions la question de l'incidence de la présence de l'Esprit-Saint dans la vie de Gédéon, puisqu'il a été revêtu du souffle du Seigneur. Gédéon pouvait-il agir avec si peu de maturité tout en étant revêtu de l'Esprit ? Première question. Est-ce que le fait qu'il ait été revêtu de l'Esprit valide tout ce qu'il a fait avec les deux toisons ? Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Dieu a revêtu Gédéon de son esprit pour qu'il puisse accomplir la mission qu'il lui avait confiée. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné de façon limitée, dans le temps et dans ses effets, et toujours dans un but précis. Pas grand-chose à voir avec le don du Saint-Esprit qui nous concerne, nous, après la Pentecôte, qui est permanent et qui est donné à chaque enfant de Dieu pour en vivre jour après jour. Gédéon est donc équipé pour la mission à accomplir. Mais il est toujours le même. Le Saint-Esprit, en le revêtissant pour cette mission, n'a pas annihilé sa personnalité. Gédéon est resté Gédéon. Il n'est pas devenu Othniel ou Jephté ou Samson, pour ne citer que des juges. La venue du Saint-Esprit, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, n'uniformise pas les personnes. Elle rend capable d'accomplir la volonté de Dieu. Et j'aimerais illustrer ce que je suis en train de dire avec une toute petite illustration. Dans nos cuisines, que nous cuisinions ou pas, dans nos cuisines, nous avons tous différents appareils électriques. Machine à café, ouvre-boîte, grille-pain, mixeur, robot, frigo, enfin tout ce que vous voulez. J'ai peut-être qu'une seule prise électrique, qu'une seule prise de courant, j'en ai peut-être plusieurs, peu importe. Mais je peux brancher tous ces différents appareils sur la même prise de courant, peut-être pas au même temps, mais je peux le faire sur la même prise au courant, eh bien ils ne feront pas tous la même chose. Ils ne feront pas tous la même chose alors qu'ils utilisent la même puissance, mais ils n'ont pas la même fonction. Et je crois qu'il en est de même avec le Saint-Esprit. Quand il vient dans une vie, il permet à la personne d'accomplir la mission que Dieu lui confie. Mais la personne reste la même. Alors, je ne parle pas de la transformation qui est apportée quand même par le Saint-Esprit, qui nous transforme petit à petit à l'image du Christ, bien évidemment, mais notre personnalité reste la même. Nous gardons nos forces et nos faiblesses. Nous ne devenons pas les clones les uns des autres parce que nous avons reçu le même esprit. Revenons à Gédéon. Le fait qu'il ait été revêtu de l'esprit va lui donner la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu. Mais cela ne l'a pas rendu parfait. Cela n'était pas la garantie que tout ce que Gédéon allait faire à partir de ce jour-là serait bon, parfait, et qu'il n'y aurait plus jamais rien à redire. La présence de l'Esprit Saint dans nos vies, si elle nous incite à faire le bien, elle ne nous y contraint jamais. Elle ne nous y oblige jamais. Marcher par l'Esprit est toujours un choix que je dois faire. Ça ne m'est jamais imposé. Un choix qui me permet de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et si vous voulez vous remettre un peu dans ce sujet, je vous invite à lire la dernière partie du chapitre 5 de l'Épître aux Galates qui explique tout cela, marcher par l'esprit, marcher par la chair. Passons à nous-mêmes. Après la pratique de Gédéon et donc tout ce que nous avons pu en dire, j'aimerais que nous nous intéressions maintenant pour finir à nous-mêmes, à notre pratique. Devons-nous ou pas imiter Gédéon et poser des toisons devant le Seigneur quand nous voulons rechercher sa volonté, quand nous voulons une confirmation de sa volonté? Est-il légitime pour nous, pour le chrétien, aujourd'hui de le faire ? Quand il ne sait pas ou plus quoi faire. On peut dire les choses un peu autrement. Peut-on demander des signes à Dieu? Jusqu'où pouvons-nous attendre une intervention surnaturelle de Dieu pour nous indiquer le chemin à suivre? Voilà certaines des questions qu'il faut que nous nous posions ici. Et nous allons chercher à y répondre en considérant les problèmes soulevés par cette pratique de la toison. Et le premier problème que je vois dans cette pratique, c'est sa présomption, son arrogance, sa suffisance. En effet, agir comme Gédéon l'a fait, c'est dicter à Dieu ce qu'il doit faire. C'est fixer par nous-mêmes les règles de notre relation à Dieu. Et il me semble que c'est problématique. Gédéon aurait pu dire à Dieu quelque chose de cet ordre-là. « Dieu, tu vois que je suis dans la crainte. Tu vois mes doutes. Pourrais-tu, s'il te plaît, apaiser mes craintes par le moyen que tu jugeras bon ?» S'il avait parlé ainsi, il n'y aurait eu rien à redire. Mais ce n'est pas ce que Gédéon a fait. Je paraphrase ce qu'il a dit. Il a dit « Dieu, voici le programme. Voilà comment les choses vont se passer. Je vais faire ça, ça et ça, et toi tu vas faire comme ça, et comme ça. » Et en fait, dans cette situation, le Dieu souverain auquel nous croyons n'a plus qu'à se conformer à la volonté de sa créature. N'est-ce pas aberrant quand nous y réfléchissons ? N'est-ce pas de la présomption ? N'est-ce pas une inversion des rôles ? Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? Pourquoi Dieu devrait-il nous obéir ? Pourquoi devrait-il arrêter le cours naturel, le cours des lois naturelles qu'il a créées pour nous, pour nous indiquer sa volonté ? C'est quand même un peu ce qui se passe hein, avec la toison, la rosée qui n'est pas partout la même, etc. Imaginez un instant si Dieu agissait comme ça pour répondre à toutes nos demandes et nos recherches de la volonté de Dieu. Vous imaginez le monde dans lequel nous vivrions, hein, où plus rien ne serait lisible, ça serait plutôt chaotique. Si Dieu devait à chaque fois arrêter le cours des lois naturelles qu'il a mis en place pour nous indiquer sa volonté. Il peut bien évidemment le faire, mais il me semble que ça sera de l'ordre de l'exception. Le premier problème posé par la pratique de la toison, c'est que nous obligeons, entre guillemets, Dieu à agir selon notre volonté. C'est nous qui posons les conditions, alors que Dieu attend de nous que nous nous reposions dans sa parole, dans ses promesses. Agir comme Gédéon l'a fait, c'est dire que ce que Dieu a dit, a révélé auparavant, n'est pas suffisant. Après avoir dit tout cela, j'aimerais quand même dire qu'il ne faut pas que nous soyons trop durs avec Gédéon. Souvenons-nous du contexte idolâtre dans lequel il a grandi, duquel il vient à peine de sortir. Souvenons-nous qu'il découvre d'une certaine manière le vrai Dieu dont il avait peut-être entendu parler. Nous en savons bien plus que Gédéon n'en savait sur Dieu. Nous avons son esprit en permanence et pourtant, il nous arrive aussi d'agir avec arrogance, n'est-ce pas ? Arrogance vis-à-vis de Dieu. Alors ne soyons pas trop durs avec Gédéon. Nous pouvons comprendre son contexte, ses circonstances, ses difficultés. Nous pouvons comprendre, mais ce n'est pas pour autant que nous devons cautionner ce qu'il a fait et limiter. Le deuxième problème que je vois dans cette pratique de la toison, c'est qu'elle s'apparente plus à la roulette russe qu'à autre chose. En fait, pour reprendre l'illustration du départ, la première voiture qui arrive et qui tourne à droite, et qui, si elle est rouge, confirme à Jacques que la volonté de Dieu, c'est bien qu'il épouse Josiane, tient plus du hasard, de la superstition que de la foi. Comment être sûr que c'est la réponse de Dieu et pas le hasard des circonstances ? En réalité, il me semble qu'en posant une toison, on n'est jamais sûr. On n'est jamais absolument sûr. Il reste toujours un doute. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. Peut-être que la rosée s'évapore moins vite sur la toison de laine que sur le sol autour. D'ailleurs, notons qu'il a dû reposer une deuxième toison. C'est bien que la première n'a pas apporté les certitudes qu'il attendait. Le problème du hasard nous amène à un troisième problème, qui est le manque total de rapport entre le signe qui est demandé et le questionnement qui est le mien au sujet de la volonté de Dieu. Quel est le rapport entre une toison de laine et le combat contre les Madianites ? Aucun. Quel est le rapport entre le projet de mariage de Jacques et de Josiane et une voiture rouge qui tourne à droite ? Aucun. Pourquoi ces signes devraient-ils dire quelque chose de la volonté de Dieu alors qu'ils n'ont aucun rapport avec les questions qui se posent? En fait, nous sommes ici, c'est ma compréhension des choses, en face de quelque chose qui s'apparente au charlatanisme païen d'autrefois, qui cherchait par exemple à découvrir la volonté de Dieu en farfouillant dans les entrailles d'un poulet. Souvenons-nous que Gédéon sort d'un culte idolâtre. Chers amis, il faut que nous soyons sérieux. Sommes-nous le peuple que Dieu conduit au gré des hasards de la vie? Ou bien sommes-nous le peuple que Dieu conduit par son esprit? L'apôtre Paul apporte la réponse dans son épître aux Romains. Il n'y a pas que des problèmes avec Gédéon et la toison, il y a des problèmes avec ma télécommande. Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu et non pas par les hasards de la vie. » Il se peut bien sûr que Dieu nous ait déjà accordé un signe. C'est possible. Il se peut même que nous ayons déjà posé une toison devant le Seigneur et qu'il y a répondu comme il l'a fait pour Gédéon. Mes amis, si Dieu nous donne un signe, qui serions-nous pour le refuser? Mais si c'est le cas, alors il faut que ce soit comme Dieu veut, quand il veut et comme il veut, et non pas comme moi je veux. Mais attention, comme nous l'avons déjà évoqué, ces choses, me semble-t-il, peuvent se concevoir au début de la vie chrétienne, où Dieu parfois tolère des béquilles pour assister notre foi immature, des béquilles qui devraient toujours être temporaires. C'est quand même pas normal si ma jambe va bien que je continue à utiliser des béquilles toute ma vie. Attention donc à ce que l'exceptionnel qui a peut-être existé au début de ma vie chrétienne ne devienne pas la règle, ne devienne pas normatif. Le but, ce n'est pas de marcher toute la vie chrétienne avec des béquilles. Parce que si c'est le cas, c'est le signe que notre foi est restée immature. Et à ce sujet, Dani Amo, dans son petit livre que je vous présenterai à la fin, « Nos décisions et la volonté de Dieu », si vous voulez, c'est petit, ça se lit très vite et c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'il écrit, « Nos décisions et la volonté de Dieu ». Il dit « Les chrétiens qui veulent marcher à coups de signes et de toisons sont comparables à des baigneurs qui savent nager » et qui pourraient se passer de bouée, mais qui, du fait qu'ils ont peur de couler, préfèrent s'assurer et en rajouter. Or, le Seigneur veut nous voir progresser dans la maturité chrétienne. Pour ce faire, il s'emploiera peu à peu à briser et à éliminer les béquilles sur lesquelles nous nous appuyons pour que nous apprenions à ne dépendre que de lui. Nous n'avons pas besoin de bouée si nous savons nager. Nous n'avons pas besoin de toison si nous sommes conduits par l'Esprit. Cette question des béquilles m'amène à un quatrième et dernier problème avec la pratique des toisons. Il s'agit du problème fondamental de marcher par la vue, et Siger nous en a déjà parlé dans la première partie, et non par la foi. Vous le savez comme moi, la vie chrétienne est une marche par la foi. C'est-à-dire que je marche en m'appuyant, non pas sur ce que je vois, mais sur ce que Dieu a dit et fait, bien évidemment. Alors il y a bien sûr une certaine facilité à marcher par la vue, parce que c'est tangible, c'est palpable, c'est rassurant ce que je vois. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. » Et puis surtout, un petit peu plus loin, au chapitre 5, verset 7, il résume en disant « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Souvenons-nous d'Abraham. Nous n'avons que l'embarras du choix des exemples bibliques. Abraham qui s'est mis en route vers le pays que Dieu, la terre que Dieu lui donnait, mais sans savoir où il allait, en s'appuyant uniquement sur ce que Dieu lui avait dit et promis. Je crois que la recherche de signes, la pose de toison, est une façon de marcher par la vue. Ce qui nous fait avancer, ce n'est pas la parole du Seigneur, mais les signes que nous avons demandés et que nous percevons ou que nous croyons percevoir. Attention donc à la facilité, à la tentation de la facilité qui veut nous faire faire l'économie de la foi et encourage notre paresse spirituelle. C'est par la foi que nous devons avancer. La foi et non la vue. La foi, souvenez-vous, qui est mise en exergue dans Hébreux chapitre 11, où nous avons tous ces héros qui ont marché par la vue, par la foi, et qui l'ont fait contre vents et marées, en dépit des circonstances, de tout ce qui était visible. La foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est le même auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit au début de ce chapitre 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Dans notre vie spirituelle, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, en imaginant que nos signes et nos toisons sont une marque de grande spiritualité. La maturité spirituelle, c'est de marcher par la foi et non par la vue. J'aimerais terminer avec deux remarques, décidément. La première concerne la connaissance de la volonté de Dieu. S'il ne s'agit pas de poser des toisons pour connaître la volonté de Dieu, alors comment faut-il faire ? Et il faudrait ici tout un message pour y répondre. Il faudrait que nous prenions le temps, et nous ne l'avons pas, pour, dans un premier temps, distinguer déjà les différentes facettes de la volonté de Dieu. Notons simplement que la Bible nous révèle beaucoup de choses sur la volonté de Dieu. Par exemple, sur sa volonté souveraine, ou décrétive pour le monde qu'il a créé. Dieu a décidé certaines choses et il nous a dit comment ça allait se passer. Dans sa parole, nous avons aussi la révélation de sa volonté morale pour nous, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous n'avons pas à aller le chercher je ne sais pas où. La parole de Dieu nous dit ce qui est bon, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc nous n'avons pas dans ces domaines, et on pourrait dire encore d'autres choses, à nous demander quelle est la volonté de Dieu. Nous la connaissons, elle nous est révélée dans la parole. Par contre, c'est en particulier dans le domaine de ce que l'on appelle la volonté spécifique de Dieu pour chacune de nos vies que nous avons besoin d'être éclairés et guidés. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu ne nous a pas laissés sans repère. Il nous a donné des instruments de navigation pour que nous puissions discerner et entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées pour nous, pour chacun de ses enfants. Et ces instruments de navigation, là aussi, il faudrait pouvoir développer. Je les énumère simplement. C'est sa parole, premièrement. C'est la prière, deuxièmement. C'est son esprit en nous, Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je suis en train de dire. C'est aussi le conseil des autres, et en particulier des autres chrétiens, des chrétiens matures dans la foi. C'est aussi notre conscience et nos convictions personnelles, elles ont aussi voix au chapitre. C'est aussi le jugement humain et le bon sens sanctifié. Et puis, j'ajouterai en dernier les circonstances. Voilà les outils que nous avons pour discerner la volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire concerne le signe des circonstances. Je fais le lien avec les circonstances que je viens de mentionner dans ces instruments de navigation. Des circonstances dont Dieu se sert parfois pour nous guider dans sa volonté. S'il n'est pas mature, spirituellement parlant, de demander à Dieu un signe du type toison, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais aucun texte de la Bible ne nous invite à procéder de la sorte. Il me semble qu'il est parfois mature et spirituel de demander à Dieu de nous guider par des circonstances particulières. Ou alors de comprendre certaines circonstances de nos vies comme indiquant ou confirmant la volonté de Dieu pour nous. Et c'est ce qui existe quand nous parlons de Dieu qui ouvre et qui ferme des portes. Quand j'ai décidé de partir au Canada pour faire mes études de théologie, il me fallait un visa étudiant pour passer mes 4 années là-bas. Je m'étais renseigné auprès de l'ambassade du Canada et on m'avait dit qu'il fallait compter 5 à 6 semaines pour l'obtention du visa. Mon billet d'avion était pris pour le 3 septembre et fin juin, 2 mois avant, tranquillement, j'ai fait ma demande. Je ne me souviens plus du jour exact, mais début août, dans la première semaine d'août, j'ai reçu un courrier de l'ambassade du Canada qui me spécifiait qu'il manquait un document à mon dossier et que ma demande ne pourrait pas être prise en compte avant que le dossier soit complet. Et que donc, le délai des 5 à 6 semaines prendrait effet à ce moment-là. Mathématiquement parlant, c'était cuit et je ne voyais pas comment, avec de tels délais, j'allais obtenir ce visa à temps pour partir le 3 septembre. Et pourtant, le visa est arrivé au bout de 3 semaines. Alors, ce ne fut pas pour moi l'indication de la volonté de Dieu, mais ce fut pour moi la confirmation de sa volonté. De cette volonté que j'avais discernée en décidant, en choisissant de partir au Canada pour faire mes études. Oui, parfois, Dieu ouvre ou ferme des portes. Mais attention cependant à ne pas surinterpréter les circonstances de nos vies. Tout ce qui nous arrive ne se résume pas à des portes que Dieu ouvre ou que Dieu ferme. Et puis attention aussi à toujours veiller à associer à ces circonstances que nous discernons les autres moyens que Dieu a mis à notre disposition. Je les ai mentionnés, la parole, son esprit, le conseil des autres, etc. Une volonté de Dieu pour nos vies qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Voilà, c'était un petit peu plus long ce matin, mais le sujet demandait un traitement un petit peu en profondeur. Merci de votre patience et nous nous arrêtons là pour ce matin. Je vous invite à prendre quelques instants de méditation pour peut-être repasser une ou l'autre chose dans notre cœur. Amen.